Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je suis heureux. Oui, je suis heureux parce que je reçois Marion Séclin, qui est une amie de longue date. Je suis aussi heureux parce que c'est ma première interview en live depuis le déconfinement, en face à face avec un autre être humain. Et heureux enfin parce que c'est un épisode qui n'était pas du tout prévu à la base et qu'on a tourné ça totalement à l'arrache alors qu'on était censé passer une soirée tranquille avec Marion. Mais au cours de la discussion, à un moment donné, enfin vous entendrez, je lui ai dit « Attends, bouge pas, je vais sortir mon enregistreur et on va enregistrer ça, c'est trop important ». Si vous n'avez jamais entendu l'histoire du parcours de Marion, je vous invite à vous rendre dans les notes de cet épisode. Je vous mettrai un lien direct vers une interview assez intense qui date de janvier 2018 et qu'on avait fait ensemble à l'époque. Dans cet épisode, on discute de plein de choses, de la ligne édito, de son compte Instagram, de ses velléités d'écrire des textes de rap, de ses moteurs aussi, de ce qui la pousse en avant et de cette envie folle qu'elle a de devenir, comme elle dit, incontournable dans son métier. Si vous aimez Histoire de succès, j'ai besoin de vous pour trois choses. Tout d'abord, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous mettrai un lien direct dans les notes de cet épisode. C'est primordial pour moi de pouvoir vous joindre directement à l'heure où les algorithmes des réseaux sociaux sont un peu capricieux. Je vous écrirai régulièrement pour vous donner des nouvelles du podcast et plus généralement de mes projets. Ensuite, si vous avez un Mac ou un iPhone ou un iPad, allez donner une bonne note à ce podcast en tapant Histoire de succès directement dans l'application Apple Podcast. 5 étoiles, un commentaire sympa, ça me permet de voir si vous aimez mon travail et ça permet à Histoire de succès de gagner en visibilité dans le classement d'Apple Podcast. Enfin, dernière chose, venez mettre directement un commentaire sur cet épisode sur le site www.histoireavecunsdesucces.com. Ça vous prendra deux petites minutes et ça me permettra d'avoir un retour de votre part. Un grand merci d'avance, j'espère que cet épisode vous plaira. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès et je vous souhaite une très très bonne écoute en compagnie de Marion. Qu'est-ce que tu racontais ?
De quoi ? J'ai raconté cette chose. D'abord, j'ai raconté que j'avais fait un appel à photographe sur Instagram et que j'ai été extrêmement surprise de voir que 75% des personnes qui m'ont écrite sont des meufs.
Ah.
Chose qui, à mon époque, n'était pas tellement faisable.
Ah, mais parce que t'es suivie par beaucoup de meufs, non ?
Oui, mais de là à faire que d'un coup, elles se sentent légitimes, c'est quand même, y a quand même un monde. Je l'ai pris comme, ça y est, il y a des meufs qui font des choses et qui se disent... Et qui se sentent assez safe de se dire je suis légitime, je vais le faire.
T'as pas l'impression que c'est un peu tes petites sœurs ?
Si, de ouf. J'ai l'impression d'avoir essuyé les plâtres et j'avais envie de leur écrire à chacune. Mais moi, je n'aurais jamais osé écrire, à moins que j'aie un diplôme agrémenté par l'État. Et elles écrivaient et c'était trop cool. Et en fait, au-delà du fait qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit, il y a aussi énormément de gens talentueux, mais beaucoup. C'est-à-dire que pareil, je me suis dit, il y a toujours une... Quand tu fais un appel ouvert aux gens, genre, venez, envoyez-moi un truc, on va voir ce que vous faites. T'as toujours des gens qui envoient des choses et tu leur dis, eux, ils n'ont pas eu des gens honnêtes dans leur entourage. Eux, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Ils n'ont pas beaucoup de vrais amis, de gens qui vont leur dire, waouh, c'est pas beau du tout, c'est chaud. Et j'ai toujours peur de ça, tu sais, de tomber sur plein de gens qui se sentent hyper légitimes, hyper talentueux et qui, en fait, malheureusement, manquent de travail ou d'expérience. Et j'ai même pas eu ça beaucoup. Donc j'étais là en train de dire, et c'était flippant parce que j'ai répondu à tout le monde individuellement et je me suis rendu compte qu'il me faudrait littéralement jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir shooter avec tous ces gens. Parce qu'il n'y avait vraiment que des gens qui étaient hyper motivants.
Alors pour expliquer, tu as posté un appel à photographe ?
Ouais, parce que
tu n'avais plus de photographe.
Les photographes avec qui je travaille sont des personnes formidables, mais ils ont tous un point commun. Aucun d'entre eux n'est de la région parisienne, ils sont tous à plus de 100 km. Ah. Donc en période de confinement, c'est un peu compliqué d'aller trouver des photographes parce que j'en connais, mais je sais jamais à quel point je peux les solliciter. Là, je me suis dit, si je fais un appel sur mon Instagram, il y aura un côté, si t'es dispo et que tu t'es conscient qu'on va faire une collaboration, viens. Alors que les photographes que j'ai rencontrés, moi, en général, c'est sur des projets payés, etc. Et moi, je peux pas rémunérer les gens sans être moi-même rémunérée, sinon c'est un échec.
C'est la première fois qu'on se voit depuis
oui.
Le confinement.
Oui.
Et c'est, la première, c'est donc le premier épisode qu'on fait avec des vrais micros et pas des gens que j'appelle à l'autre bout de la planète.
Est-ce que j'ai grandi ?
Oui, t'as poussé. On avait fait une première interview en janvier 2018, tu t'en souviens ?
Ouais, je m'en souviens.
T'avais pleuré
ouais.
et tout.
Ouais, j'avais pleuré. Bah, j'avais pleuré parce que je venais de. J'étais quand même dans une période émotionnellement hyper. Tu sais, j'ai une mémoire vraiment laser. Et quand je dis une mémoire laser, je veux dire une mémoire qui fait des découpes hyper précises de tout. Okay. Et je garde mes agendas de certaines années. Et je me souviens toujours que le mercredi où... Parce que c'était un mercredi, c'est te dire. Okay. Le mercredi où on a fait l'interview, je venais de rompre d'une relation longue et intense, de 4 ans de relation amoureuse. Et j'avais noté que je devais donc venir te voir pour l'interview. Donc j'étais vraiment très ébranlée émotionnellement. Et quand je reprends mon agenda, à chaque fois de 2018 ou de 2017 ou de 2016, à chaque fois, voir ce que j'ai écrit dessus me ramène le même background émotionnel que j'avais à ce moment-là. Donc je m'en souviendrai toujours de cette interview.
Ok.
J'avais chialé, putain.
Donc vous pouvez aller la retrouver, je vous mettrai le lien dans le podcast. Mais alors, c'était pas du tout prévu qu'on se mette à enregistrer, enfin, en tout cas que je me mette à enregistrer, mais on a commencé à parler, ça fait une heure qu'on parle. En fait, il y a un moment donné où t'as commencé à me dire des trucs que j'ai fait. En fait, ça me saoule, ça fait vraiment une demi-heure que j'ai un peu en background ce truc de me dire « j'aimerais tellement enregistrer cette conversation ».
Oui, c'est vrai que ça fait 3 fois que tu dis « Ah, j'ai pas le micro » et je suis là « Quoi ?» Oui, c'est vrai que ça fait 3-4 fois. Mais ça fait plaisir, ça veut dire qu'après tant d'années d'amitié, je dis toujours des choses qui te font faire « Ah tiens, c'est pas complètement con !»
Bah oui, et puis surtout, c'est des choses que j'aimerais bien partager et que j'aimerais bien que d'autres gens écoutent. Et donc, voilà, j'ai installé le matos. Et là, t'as commencé à me raconter des trucs et j'ai fait tais-toi.
Oui, c'est vrai.
Tais-toi.
Ça fait 5 minutes que je veux parler et que tu me dis chut.
Tais-toi, tu m'as raconté ça dans le micro.
Ouais.
Déjà, je pourrais pas revenir depuis tout ce qu'on racontait depuis une heure parce qu'on a parlé de plein d'autres choses, mais vous ne le saurez pas, désolé, chères auditrices et auditeurs.
Peut-être que ça va revenir, hein, vous savez, en général, tout se boucle.
Tout se boucle. Mais donc tu racontais, alors, tiens, il y a un truc dont on n'avait pas parlé, donc ça me ramène plein de choses parce que en vrai tu m'as parlé de tes moteurs, note bien
oui,
pour tout à l'heure,
mes
on va parler des moteurs, mais avant ça j'aimerais bien qu'on parle de ton Instagram.
Oui,
parce que parce qu'en fait on n'a pas du tout parlé la fois passée de ton Instagram. On a plutôt, alors si vous voulez écouter un épisode plus classique d'Histoire de succès, dans cette interview là qu'on fait ensemble, on revient sur tout ton parcours, etc. Là, comme on l'a déjà fait, ça, on va parler d'autre chose, mais je trouve que t'as c'est vrai que de ce fait là sur ton Instagram est très beau. En tout cas, ton feed avec les photos que tu postes, tu fais des photos hyper chiadées, hyper de qualité, etc. etc. Et je trouve que t'es pas loin sans doute d'être la seule Instagrammeuse que je connais, en tout cas que je suis, qui fait des trucs aussi jolis dans son feed et qui est capable de se mettre en slip, en train de se maquiller ou de te laver les cheveux ou je sais pas quoi, on va dire au naturel.
Au naturel, ouais.
Dans tes stories.
La vérité.
Alors déjà, ça te vient d'où l'idée de te dire je vais essayer vraiment de faire de mon Instagram une belle chose ?
À la base, c'est parce qu'Instagram, quand ça a été créé, c'était pour faire des belles choses. Il n'y avait pas de story et les gens postaient des photos de ouf, vraiment magnifiques. Et quand toi, t'arrivais sur Instagram, tu jouais avec les filtres. Là, ça fait vraiment, ça doit faire 5 ans que j'ai pas mis un filtre sur une de mes photos parce que j'ai des photos de photographes qui ont déjà eu des retouches lumière et que donc j'ai plus à choisir entre Vencia et Bleu Céladon, tu vois. Ça, c'est un truc, je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps. À la base, Instagram, c'était vraiment une espèce de vitrine visuelle dans laquelle tu pouvais te satisfaire les yeux, regarder des choses belles, voir tous les pays du monde, tous les trucs. Et puis au fur et à mesure, il y a eu le métier d'instagrammeuse ou d'instagrammeur, enfin d'influenceur, où il y a eu les stories qui ont été mises en place. Et je me suis dit, les stories, c'est un truc qui disparaît dans 24 heures. Si je commence à essayer de faire en sorte que tout mon compte Instagram, c'est-à-dire de mes stories à mes posts, ce soit aussi chiadé, aussi léché, aussi joli, moi, j'ai plus de vie. Parce que c'est pas grave sur YouTube, parce que sur YouTube, ça reste. Mais si ça part en 24 heures et que c'est obsolète quelques heures après, je peux pas faire ça. Donc, je me suis dit, je vais faire comme avec Matt Gaver. C'était le même procédé. C'était qu'est-ce que je vois sur Instagram et qui ressemble pas à ma vie, et qu'est-ce que moi j'ai dans ma vie qui ressemble pas à Instagram. Et c'était de dire, bah, je vais quand même rendre accessible cette partie-là de moi parce qu'elle existe. Après, j'ai toujours souhaité avoir un feed Instagram hyper léché parce que c'était une manière de revendiquer la complexité de qui j'étais en tant qu'individu. C'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est pas je peux dire des bêtises comme dire des trucs très intelligents, comme je peux faire des photos où j'ai 0 g de maquillage et des photos où j'ai été pomponnée par 15 personnes. C'est ça qui est magique dans la vie, c'est que c'est tout. Et j'avais l'impression que de nos jours, on donne de la crédibilité et de la légitimité de ouf, tu sais, à tout ce qui est vachement beau, vachement propre, vachement léché, vachement travaillé, vachement réfléchi. Et c'était une manière de dire les choses pas réfléchies, pas travaillées, pas léchées, pas propres peuvent être aussi très intéressantes. Et j'aimais bien pouvoir faire les deux. Donc mon feed, c'est un peu le... J'ai l'impression qu'en ce moment, il traduit pas trop ce que je suis et ce que je suis capable d'être. Mais en même temps, c'est hyper compliqué parce que on est quand même dans un monde... Où, par exemple, je monnaie mes posts. C'est comme ça que je gagne ma vie. On me dit combien pour parler de ma marque ? Et je leur dis 7 millions d'euros. Rarement, je dis 7 millions d'euros, mais ça arrive. Et donc, du coup, j'ai quand même...
Ça n'arrive pas.
Ça arrivera un jour. Oui. Franchement, le jour où je demande 7 millions pour un post, on refait une histoire de succès.
C'est sûr.
Comme du coup, je monnaie mes posts et que c'est là où j'ai le plus de revenus, parce que scénariste, c'est mignon comme métier, mais c'est rare que je gagne bien ma vie avec, et comédienne, c'est pareil,
On va en parler après.
Ça fait des hauts et des bas. Instagram me permet d'avoir un revenu fréquent, et je sais plus pourquoi je te disais ça. Mais en gros, oui, j'ai quand même une sorte de quête du like. C'est pas une vraie quête du like, dans le sens où si je voulais être clickbait, je serais vachement plus clickbait que ça. Et que j'ai quand même décidé de faire quelque chose qui est cohérent avec moi et qui est authentique. Mais il y a quand même une part de moi à chaque fois avant que je poste qui se dit, est-ce que ça a un potentiel likeable ? Et je ne vais pas aller dans une photo de nature morte parce que je sais pertinemment que les gens, ils ne sont pas sur Instagram pour voir des natures mortes.
Comment tu ferais pour être plus clickbait ?
Je jouerais à Barbie féministe. Barbie féministe, pour moi, c'est comme les gens qui sont contre la guerre, c'est récupérer tous les grands thèmes du féminisme qui sont donc en ce moment beaucoup plus mis en avant.
J'allais dire, c'est vraiment clickbait du moment, quoi.
Oui, clickbait du moment, ouais, mais je veux dire.
Parce qu'il y a 3 ans, c'était pas là.
Ah oui, non, il y a 3 ans, non, là, aujourd'hui, non, tu me demandes dans la tendance. Oui. Moi, vraiment, je suis les tendances. Je regarde beaucoup Instagram et je suis vraiment au courant de ce qui marche, ce qui marche pas, etc. Et en ce moment, le grand truc qui fonctionne, c'est l'espèce de béaba de les femmes sont des humains, ok. Et c'est dire, par exemple, ça se fait trop pas qu'au César, Polanski, il y a eu un César. Genre, oui, merci, genre Captain Obvious du féminisme. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, je sais que ça pourrait vraiment fonctionner. Et si je voulais quotidiennement faire un post sur ce que j'appelle donc Barbie féministe, ce serait pas très réfléchi, pas très contextualisé. Ce serait juste « je suis contre la guerre ». Moi, je suis contre les inégalités, sans qu'il y ait derrière ni réflexion, ni que j'utilise ça dans mon quotidien, ni que ça serve à quiconque d'exemple, puisque ce serait pas très profond.
Mais pourtant, c'est important, donc... Enfin, je veux dire, c'est pareil, pour moi, c'est un peu tes petites sœurs, toutes ces meufs qui font les Barbie féministes, comme tu dis.
Je reproche à personne de faire Barbie féministe, okay. Je dis juste que je sais que c'est ça qui marche.
Okay.
C'est très bien, en fait, ouais. Que tout le monde s'approprie le féminisme.
Non, parce
c'est
que c'est pas,
pas
très... Il y a un côté un peu péjoratif quand tu le dis comme ça, Barbie
oui,
féministe.
Oui, quand je le dis comme ça, non mais oui, c'est péjoratif dans ma tête, parce que c'est comme... Comment t'expliquer ? C'est comme si d'un coup, j'avais cette espèce de somme de personnes âgées qui a parlé de féminisme fut un temps où c'était encore la honte de ouf, ouais. Et où j'ai l'impression de ne pas récupérer la monnaie de ma pièce. Mmh. Et de me dire genre, non mais là, ça fait longtemps qu'on sait ça. Pourquoi est-ce qu'on le répète et pourquoi est-ce que c'est si mis sur un piédestal quand on le répète encore une énième fois ? Donc moi, je reproche à personne de faire rien. C'est très cool que tout le monde s'approprie le féminisme. Moi, je trouve ça génial. Ça permet de passer des messages. Le seul truc, c'est que les gens se concentrent systématiquement sur ce qu'ils voient et pas sur... Non, attends, je vais reprendre cette phrase. Les gens se concentrent sur ce que tu fais, pas sur ce que tu dis. Donc quand je vois des personnes qui parlent de féminisme, mais qui derrière vont faire quelque chose qui va être complètement contre-productif, je sais que les gens vont prendre conscience beaucoup plus lentement des choses. Tu vois ce que je veux dire ?
Ah ouais, carrément.
Et du coup, je juge pas en disant ni c'est bien ni c'est mal. Je dis juste, si moi je voulais être plus bankable, je serais moins punk. Et je suis punk, donc je pourrais pas être plus bankable. Mais je saurais comment on fait pour l'être.
Ok. Et pourtant, c'est marrant parce que tu continues à adopter avec des shoots très esthétiques, où tu mets t'as des belles photos, etc. T'es plutôt dans l'ancien Instagram de cette là.
Oui, je suis dans l'ancien Instagram. Absolument.
Ok.
Je sais pas, j'aime bien ça. Pour moi, c'est comme... j'ai réussi à traduire la photo dans ma vie comme je traduisais la fiction et le fait de jouer un rôle. C'est que si jamais je devais... si jamais tous les films ou les séries dans lesquelles j'avais joué ou que j'avais écrit, c'était juste moi au naturel, il y aurait un moment où ça servirait à rien de jouer la comédie, je jouerais rien, je serais juste moi. Si je faisais que des photos qui étaient des selfies où j'étais complètement moi comme je fais en story, ça aurait plus d'intérêt de faire des shootings. Là, il y a une part de moi qui rentre dans le rôle et qui s'approprie d'autres codes et qui change complètement de peau, et c'est ça que j'aime. Et comme je peux plus shooter que je peux tourner, c'est une manière beaucoup plus pratique aussi de me dire vas-y, là je fais ce shoot, je suis une jeune princesse abandonnée sur le bord de la route qui tente de récupérer le lien avec sa famille, tu vois, genre je peux m'inventer des histoires, je peux m'inventer des films juste en photo, et ça c'est un truc que j'ai toujours aimé faire, c'était être autre chose, être quelqu'un d'autre et voir ce que je pouvais en retirer de positif.
Est-ce que t'es en train aussi, pour revenir à tes légendes, donc au texte que tu mets, t'es en train d'écrire un album de rap?
Oh putain, j'aimerais te dire oui, mais la vérité c'est que c'est pas loin, mais c'est pas ça. Je suis en train de me permettre de faire des choses que j'avais toujours pas voulu faire, parce que qui étais-je pour écrire des choses qui rimaient?
Ah ouais?
Ouais, mais tu m'as connu, tu me connais encore, tu sais ce truc de si j'ai envie de faire un truc, mais avant d'être validé par un public qui hyper instruit, je ne me lancerai pas dans cette chose-là. Et je me suis dit c'est trop con, parce qu'Instagram ça me permet de faire des photos un peu folles avec des mises en scène un peu jolies et de me mettre en scène d'une manière différente, mais pareil au niveau de ce que j'écris. C'est-à-dire que moi, mes légendes, c'est pas juste coucou les copains, comment ça va, moi hier j'ai été à la plage. J'ai pas envie de dire ça, et je me suis dit qu'est-ce qui m'empêche de mettre des légendes où je mets des petits bouts de poèmes, des petits bouts de rap ou de je ne sais quoi, juste de faire en sorte... Et en fait, comme ça me vient hyper naturellement, bah, c'est devenu une sorte de machine de... Genre ça c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que avant je réfléchissais un peu plus longtemps pour faire des bonnes rimes, pour faire des bons textes, et puis maintenant il suffit que je dise je vais faire un post pour que des choses viennent à moi, et mes posts je les fais en 3 minutes.
Pourquoi tu te lances pas dans le rap?
Parce que je suis pour le moment pas encore sûre d'avoir un flow. Genre j'ai pas encore eu le temps de réfléchir, tu sais, de poser des mots. Quand t'entends des rappeurs, tu te dis ouais, ils ont toujours chanté comme ça, ils sont super. Et moi, quand je chante, je me dis qu'est-ce que je vais faire comme flow, qu'est-ce que je vais comment je vais poser les mots sur des choses pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est un truc emprunté ou nul ou faux ou quoi. Je suis encore en train de me poser la question. Un jour, ça va sortir tout seul. Hein.
De quoi t'as besoin pour avoir un déclic?
Je crois que j'ai besoin d'essayer avec quelqu'un avec qui je suis tellement à l'aise que me ridiculiser me fera absolument ni chaud ni froid.
Vas-y, fais-le avec moi alors. Sors un texte.
Non, vas-y.
Vas-y, sors un texte et lis-le.
Non, j'ai pas de texte là.
Si,
t'es
t'as
fou.
Des textes. Mais si, bien sûr, t'as des textes, tu le sais très
mais
bien.
Mais pas dans toi... la tête.
Non, mais va chercher ton téléphone.
Ok, je vais chercher mon téléphone. Oh
non, toi et moi, tu sais très bien. Enfin, on se connaît, donc pour vous expliquer un petit peu, mais je sais exactement ce qui se passe. C'est que Marion m'a déjà fait lire des textes. Je cherche à t'humilier, oui, c'est
non,
sûr.
En vrai, je suis sûre que je vais récupérer le flow de quelqu'un d'autre. Ah oui, parce que du coup, je suis vachement dans le mimétisme, okay. Et je suis capable d'imiter des gens.
Ok, alors, mais ça, si je puis me permettre, c'est comme ça que t'apprends. C'est-à-dire que je pense que quand t'as commencé à écrire ou à jouer, t'imitais des gens.
Oui,
en fait, au fur et à mesure, t'as appris
à être moi.
À être toi. C'est un super conseil si jamais t'es en train de débuter un truc. Vas-y. Emprunte.
Bah balance une instru, j'ai envie de te dire. Attends, je choisis un texte correct.
Non, je déconne.
Thanks. Ok, Fabrice à la prod.
Ah. Non, pas du tout.
Attends, je vais trouver parce que j'écris aussi mes newsletters sur mes notes. Donc autant te dire que j'ai énormément de notes. J'ai une note qui s'appelle l'argent du féminisme. C'est chaud.
C'est moi qui l'ai.
Oui.
C'est une vanne entre nous.
Bien sûr. Attends, je vais trouver.
Non mais donc, en fait, pourquoi je te pose cette question? Parce que je sais que tu écris des textes.
Ouais, j'écris
un long
des
moment.
Textes depuis longtemps.
Et c'est pour ça que je te lançais là-dessus, sur cette histoire de est-ce que tu es en train d'écrire un texte de rap avec tes légendes. C'est que je t'ai déjà vu, tu m'as déjà lu des textes que tu avais écrits à une époque où surtout, je pense, tu écoutais beaucoup L'Homme Pâle.
Ouais, beaucoup.
Peut-être un peu moins maintenant, tu continues?
Non, beaucoup moins.
Ok.
Je l'écoute moins parce que j'ai été quand même vachement plus touchée par son album Flip et que j'ai beaucoup aimé Janine, mais que je sais pas, je l'écoute un peu comme un plaisir, un peu je l'écoute un peu comme je me masturbe, c'est-à-dire genre je vais pas le crier sur les toits mais je le fais quand même. Et puis c'est pour moi que je le fais, quoi. C'est vraiment pour moi que je le fais.
C'est pour moi dans ma chambre.
C'est pour moi perso. Je vais te trouver ça. C'est fou quand même, hein.
De quoi ?
Bah attends, d'avoir tant de notes et de rien savoir quoi te lire. Parce que parfois, c'est pas bien. En fait, ce qui est chiant, c'est quand je me relis et que je me trouve pas forcément douée. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai écrit « Avoir ses règles sur demande ». J'aimerais bien une sorte de Netflix des règles. Ce serait super. J'ai énormément de notes, ouais.
T'écris quoi dans tes notes ?
J'écris mes échecs réussis, j'écris des idées comme ça, des petites idées. J'écris des petits textes qui n'ont aucun rapport avec rien, juste des manières de placer les choses. Attends, 10-2019, ok, donc c'était avant. J'écris ce que je voudrais mettre sur mon épitaphe, au cas où on retrouve mon portable quand je suis décédée. On le saura.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Toujours cette peur de la mort.
Non, pas peur. Plus juste être sûr que...
Que ça se passe bien.
Ouais, puis que ça existe en fait. Enfin, j'ai besoin de savoir que ça existe, la mort. Comme ça, je me dis, je suis pas...
Non, mais je veux dire, de se dire, ok, en fait, je suis en train d'écrire ce qui va se passer sur mon épitaphe au cas où.
Ouais.
On retrouve mon portable.
C'est ça. J'ai trouvé d'ailleurs sur mon épitaphe, je voudrais qu'il y ait écrit « Elle s'est tellement sorti les doigts du cul qu'elle a touché le ciel. » Tu vois ? Ça vaut le coup, franchement. Qui a ça sur son épitaphe ? Personne. Moi, je veux laisser personne en gérance de mon enterrement qui va faire un truc triste et ouin ouin. Je te le dis parce que...
Mais ça sera le titre de cet épisode. Comme ça, au moins, ça sera vraiment écrit.
Parfait. Merci. Alors, attends. Je l'ai, hein.
Bah oui, je sais.
Putain.
Ça te fait peur ?
Non, un peu, ouais.
Ouais.
Mais c'est parce que j'avais écrit un gros texte que j'aimais beaucoup. Ok, j'ai un truc. Mais je vais te le lire, ça va être du slam, ça va pas être très cool.
Bon, on s'en fout.
Ok.
C'est juste, je voudrais que...
Tu voudrais...
T'as écrit ça quand ?
J'ai écrit ça le 4 août 2019, à 23h24. Demain, je serai boostée encore par toutes les cellules de mon corps. J'aurai l'énergie d'une armée, l'acharnement d'une chercheuse d'or. Peu de sommeil et à quoi bon ? On dormira quand on sera mort. Je pourrai respirer sans air, soulever des montagnes sans effort. Mon cœur battra comme si lui seul devait faire vivre 2000 organes. Ce sourire débile sur ma gueule illuminera même l'ignorance. Cage thoracique sera l'écueil des pires gouffres des apparences. Et je déterrerai le cercueil, ressusciterai mes membranes. Je sais que c'est fragile, que c'est bancal, ça n'a pas de sens. Mais c'est toujours quand on jubile qu'on veut la sécurité de l'absence. Je joue à celle qui va, qui vient, sans peur de ramasser les morceaux de mon cœur qui se brise pour rien, d'aimer trop fort, trop loin, trop tôt. C'est en moi, j'ai le feu sacré. J'ai plus d'énergie que quand j'ai bu 40 cafés. J'ai trop de choses à dire et une seule bouche. J'exploite ma flamme sans y penser. Et même quand je dors, ça m'épuise. Et j'ai pas fini. J'ai rien fini. J'ai que des trucs commencés, rien n'est fini.
Bah c'est un peu, ça pourrait être un bon titre d'album. J'ai que des trucs commencés, rien fini.
C'est long quand même pour... Non mais ouais, je vais le faire. Je pense que je ferai ça un jour quand j'aurai genre rien d'autre sur le feu. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Instagram et c'est pour ça que je me suis mis à écrire des légendes avec des poèmes. C'est que je me suis dit, j'ai rien à raconter de particulier, je raconte tout en story. Donc, à quoi pourrait servir cette légende que j'ai pas déjà fait ailleurs, que j'ai pas déjà amené d'une autre manière ? Et je me suis dit, bah, j'ai jamais fait des rimes.
Si vous voulez que Marion un jour écrive un album de rap, envoyez-lui des DM par exemple.
Oui, absolument.
Et puis, si vous êtes... chez Universal, par exemple, et que vous cherchez...
Non, moi, je signerais en indé si je devais faire du rap, parce okay. que...
Arrête de tirer des balles dans le pied comme ça.
Mais non, mais attends, c'est vrai. Regarde, Jules. Il sort 200 albums par an, ouais. Il est en indé. L'homme pâle, il est en indé. Énormément de rappeurs sont en indé.
Okay.
Et c'est vrai que si je voulais avoir un peu de street cred, faut pas que je signe chez Universal. Okay, c'est tout. C'est une question de street cred.
Ok, c'est noté. J'ai pas toutes les rêves de la street cred, mais effectivement, Jules qui sort 200 albums par an, j'entends.
Beaucoup.
C'est un truc qui te plairait, ça ?
Franchement, ça me plairait trop. En fait, faire de la scène, ça me plairait, et faire de la scène avec quelque chose dont je suis sûre et certaine. Et j'ai dit deux fois sûr, mais parce que vraiment, je veux être très, très sûre.
Okay.
Parce que quand j'ai fait un peu de stand-up, parce que j'ai fait un petit peu de stand-up pour
c'était
les one-man
show.
Arrête.
Non, mais je suis déçue que t'aies pas creusé cette veine.
Mais parce qu'en fait, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de stress parce que j'étais si peu sûre de ce que je disais. J'étais si consciente que j'avais encore besoin d'une forme de d'aise sur scène. Ça me pétrifiait de pas être sereine. Du coup, c'était vraiment le serpent qui se mord la queue. Je me suis dit, un jour sur scène, je serais bien et je serais tellement à l'aise que je pourrais faire des impros, que je serais à l'aise pour créer des choses. Et là, j'étais si stressée, si accrochée à mon texte, si accrochée à mes mots, que je me suis dit, je vais attendre de voir le moment où ça me touchera et où je me dirai, ouais, c'est ça que je veux faire.
Ah oui, mais t'en as pas fait assez pour être à l'aise.
Non, mais j'ai fait, en fait, quand j'ai préparé Bobino de l'année dernière, là, donc avec le One Match Show.
Le One Match Show, oui.
Ouais. On a fait un grand One Match Show. Marine Bausson m'appelle en février de l'année d'avant pour me dire, c'est en février de l'année prochaine. Alors moi, évidemment, je m'engage. Moi, quand c'est à un an, je vois pas. Donc je dis d'accord avec plaisir et on arrive pas loin du jour où on fait Bobino et c'est Shirley Soignon qui m'a aidée à travailler sur scène et elle m'a fait faire plein de petites scènes ouvertes. Donc j'ai refait le même texte et je me suis reconfrontée et repris les pieds dans le tapis de mon propre stress et c'était pas encore un truc sur lequel j'étais assez sereine pour me dire ok j'y vais.
Parce qu'en vrai t'es montée combien de fois ? 5-10 fois peut-être ?
Ouais, entre 5 et 10 fois.
C'est pas beaucoup.
C'est peu. C'est peu, mais c'est aussi parce que j'en tirais plus de stress que de plaisir. Et je me suis dit, un jour, il y aura un shift, c'est sûr. J'ai adoré faire de la scène quand je joue au théâtre, quand je jouais le texte de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, avec la confiance que j'ai et les certitudes que j'ai, j'arrive pas à monter sur scène avec mon propre texte ou à me dire, ah, ça vaut le coup, ah, ce sera super. Pourtant, j'ai écrit d'autres petits passages de trucs de scène. J'en ai écrit plein, j'en ai plein dans mon téléphone. J'ai tous les jours une nouvelle note. Où j'écris une idée bête ou un truc super, ensuite je me relis, je comprends pas ce que j'ai écrit et je me dis ah, ensuite ça me revient. Enfin vraiment, c'est le.
Faites très attention si vous prenez des notes d'une manière générale à mettre le plus d'infos possible.
Ouais.
Parce que faut jamais partir du principe que tu vas te souvenir de ta note dans 2 mois.
Non, parfois non. Mm. Déjà, il y a des fois où je relis mes notes et je me dis putain, mais idée de ouf, comme si c'était pas moi qui l'avais eu. Mm. Comme si la meuf qui l'avait eu 2 mois avant, c'était une autre moi qui était vraiment super cool. Et comme s'il y avait des moments où j'avais vraiment l'impression de me dumb down moi-même. Par rapport à moi-même, genre d'être plus con que moi-même. Et j'étais là, non, j'aime pas être plus con que moi, c'est chiant. T'as jamais eu cette sensation ?
Si, mais si. Mais alors, en retrouvant des vieux carnets, en fait.
Oui, c'est ça, ou ton passeport. Moi, j'ai déjà retrouvé mon passeport et je me suis dit, putain, mais qui l'a mis là ? C'est une idée brillante et c'était moi qui l'avais rangé là, tu vois ? Et ça m'est déjà arrivé de ranger des choses dans des endroits logiques. Et au moment où je veux les chercher et où je me dis, bon, je vais aller là où c'est logique de l'avoir rangé, où je sais bien là où je l'ai rangé et où je me remercie et je suis là, merci, franchement, je peux compter sur toi, moi-même, merci. Mais il y a plein de moments où j'ai l'impression de pas savoir qui est la meuf qui avait fait les notes avant.
Je vois complètement ce que tu veux dire.
Oui.
Oui, tu disais que tu... juste pour terminer sur Instagram, tu disais que t'as fait un appel à photographe pour pouvoir refaire des shoots parce qu'en fait t'es un peu sans doute
à court
de photos à poster.
Ouais.
Tu postes une photo par jour quasiment, non, c'est ça?
Non, beaucoup moins. Je poste genre 2 fois par semaine max.
D'accord.
Avant je l'ai fait ça, j'ai fait pas un par jour mais un tous les 2 jours ou toute la semaine et en fait c'est trop, ça sert trop à rien. Quand je dis ça sert trop à rien, c'est-à-dire que j'ai pas envie que ça devienne lassant, ni pour moi de poster, ni une obligation, ni pour les gens de m'avoir dans leur feed.
Okay.
Parce qu'on est quand même dans un monde où effectivement tu te souviens de ce que tu viens de voir, mais j'ai pas non plus envie d'être in your face, et puis que moi ça devienne quelque chose de casse-couille, tu sais, de poster tout le temps.
Ouais. Et donc tu disais que tu avais fait tes premiers autoshoots.
J'ai fait hier ma première séance d'autoportrait.
Ok.
Donc je me suis acheté un super bon appareil photo qui m'a été conseillé par un ami à moi, Elliot, qui me shoote très souvent. Mm-hmm. Et il m'a montré une fonction où en fait avec ton téléphone portable, ton iPhone, tu peux contrôler ton appareil.
Oui. Ouais.
Et j'ai une demoiselle qui a une boutique de fleurs qui m'a offert des fleurs et je me suis dit je vais shooter avec, j'ai le temps. J'ai pris une tringle à rideau de ma chambre que j'ai à moitié posée sur le pied d'une light normalement que j'utilise pour tourner, que j'ai adaptée avec un rouleau de papier cellophane vide. Donc j'ai mis ma tringle dedans, j'ai percé le truc en carton, je l'ai mis sur le pied de la lampe, j'ai mis l'autre moitié sur le bar qu'il y a chez moi. J'ai mis le rideau de ma penderie qui est bleu céladon, un très joli bleu. J'ai mis un petit tabouret devant et je me suis mise à shooter et à tester des trucs en me disant j'ai le temps, je suis toute seule, je suis tranquille, c'est cool. Et ça m'a ouvert comme ça m'a comme découpé un petit truc dans mon esprit où je me suis dit, c'est possible. Si demain je veux shooter n'importe quoi, toute seule, je peux.
Ah oui.
Ça a créé un espace d'indépendance que je pensais pas avoir. Où je pensais être dépendante systématiquement de quelqu'un pour prendre des photos, ou de quelqu'un pour faire des retouches, ou de quelqu'un pour... quand je parle de retouches, je parle surtout de retouches lumière, mais de quelqu'un qui savait mieux que moi pour le faire. Et là, je me suis rendu compte que pas du tout. Et ça m'a fait hyper plaisir. Ça m'a fait... Enfin, vraiment, je prenais mon temps. Mon salon, c'était le bordel. Et j'aime peu être dans le bordel, mais quand même. Et j'étais là avec mon petit set que j'avais mis en place, qui était de toute beauté et vraiment genre extrêmement bien réalisé. Et j'ai fait plein de photos. Et j'étais si contente. C'était comme si d'un coup, je me montrais à moi-même que j'étais capable.
Ouais.
D'un truc où j'avais toujours eu la sensation d'être complètement incapable.
Mais pourtant, tu avais fait ce chemin-là avec la vidéo, par exemple.
Ouais, oui, j'avais fait ce chemin-là avec les vidéos, mais je faisais du face caméra, c'est-à-dire qu'il y avait un côté où j'assumais d'être moi seule face à une caméra. Là, c'est pas que j'assume pas que c'est de l'autoportrait, c'est juste que j'avais très envie qu'il y ait quand même une patte artistique.
Okay.
Donc j'ai vraiment fait des tests, des vrais tests. Genre, j'ai même fait 7 photos où genre j'ai mon cul dans des fleurs.
Ah oui, ça. Mais tu l'as pas publié. Mais...
Non, je l'ai pas publié, mais parce que tu vois, c'était mes tests, c'était pour moi, c'était cool. C'est comme tout ce que j'ai cuisiné pendant le confinement, j'ai pas eu envie de le mettre sur... j'ai pas envie de le mettre sur Instagram, c'est-à-dire que je fais aussi beaucoup de choses pour moi, mais j'avais envie de travailler une forme d'esthétisme que j'avais jamais eu l'occasion de travailler toute seule, où je me disais ah tiens, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que je trouve joli, qu'est-ce qui me touche et pourquoi, et je vais le prendre en photo.
Okay.
Et du coup j'ai pu faire ça, et c'était difficile d'être le sujet de mes propres photos parce qu'évidemment je me jugeais en me disant ah t'es pas jolie, ah elle est vraiment con, ah c'est quoi cette gueule de merde, et en même temps j'avais que ça, donc j'avais envie de faire quelque chose, j'avais envie d'avoir un résultat, donc je me suis dit, écoute, je vais me faire au résultat de toute façon, entre quelque chose que moi je juge beau ou moche, et quelque chose que les autres jugent beau ou moche, il y a toujours des tonnes de différences, donc autant ouais. faire comme si c'était pas moi le juge. C'est une bonne idée.
Ouais, c'est...
de pas juger.
C'est une bonne idée dans la vie en général. J'ai décidé d'aller chercher mon enregistreur et de commencer à enregistrer quand t'as commencé à parler de tes moteurs.
Ouais.
Ou alors je sais plus comment on en est venu à parler de tes moteurs, mais
parce qu'on parlait de tes enfants,
de mes enfants personnels.
Ouais, et surtout on parlait des moteurs de Michael Jordan à la base.
Ah oui, c'est ça, parce que j'étais en train de parler à Marion de ce docu sur Michael Jordan qui s'appelle The Last Dance. Que alors si vous connaissez pas Michael Jordan, si vous connaissez pas le basket, Balek, vraiment regardez-le quand même parce que ça parle plutôt de l'être humain et de l'homme. Et ça parle de plein de choses en dehors de juste le basket. Le basket, c'est juste un prétexte. Et en fait, effectivement, tu parlais de tes moteurs.
Oui.
Et tu as commencé et j'ai dit, ok, donc là, c'est chiant. Il faut vraiment que j'aille chercher mon enregistreur.
C'est chiant.
On peut pas avoir toute cette conversation sans que ce soit à un moment donné dans un micro, quoi.
Mais c'est parce que je crois que je les ai compris il y a pas longtemps, les moteurs. Et quand je les ai compris, j'ai su que il y avait pas de moment où j'allais arrêter d'avoir envie de faire des choses tant que j'avais ces moteurs-là. Et mon premier moteur identifié, ça a été la revanche. Et par la revanche, j'entends le besoin de prouver à quiconque me défiera de réussir quelque chose que je peux le réussir. Et que je ne peux pas juste le réussir, que je peux le faire extrêmement bien.
J'allais dire, je te défie de faire un album de rap.
Eh bah, ben, défie-moi, tu vas voir. Non, mais dis-moi que je ne suis pas capable, dis-moi
t'es
que je ne peux
capable,
pas.
Tu n'es pas capable, franchement, dis-moi que... t'as pas de flow et tout, ça va.
Ouais, non, puis les femmes dans le rap. Non, mais voilà,
ah oui.
En fait, j'ai des boutons sur lesquels il est facile d'appuyer.
Et puis Diams, là, il y a qui, hein, voilà.
Oui, puis... Hein. Non, mais j'avoue que passer après Diams, ça fait peur, hein. Hein. Quand même.
Pardon,
que...
je t'ai coupé.
Non, je t'en prie, je pense à Diams et j'ai vachement d'admiration pour cette ouais. personne, je la trouve formidable. Toujours après toutes ces années, tout ce que je réécoute de Diams à chaque fois me fait me dire bah non mais oui effectivement autant qu'on fasse pas de rap hein, elle existe.
C'était il y a longtemps en plus. Tu t'en
c'était il y a si longtemps.
Elle était tellement précurseuse.
Elle était sur précurseuse. Elle était géniale.
Ça se dit précurseuse.
Bah ça va se dire à partir voilà. de maintenant. Voilà. Du coup.
Ouais, tu disais
la revanche. Ça a commencé petite. Ça a commencé à mes parents qui me disent que c'est probablement pas un métier pour moi parce que moi dans ma famille j'étais la petite timide, enfin timide, j'étais la petite moins intéressante, un peu plus con, qui attirait moins l'attention, qui n'avait pas vraiment de skills visibles, qui était un peu renfermée sur elle-même. Donc aucun de mes parents ne s'était dit waouh non mais attends il y a une star qui sommeille dans le cœur de cette petite fille, elle est formidable. Et donc quand j'ai dit je veux être comédienne, leur réaction ça a été de dire mais pour ça, il faut quand même un peu de y a des prédispositions, quoi. Et du coup, j'étais là, ah ouais, bah on va voir. Et j'étais vraiment en mode, ok, bah on va voir, il n'y a pas de problème. Et c'était pas juste pour leur montrer qu'ils avaient tort que je l'ai fait, c'était juste que moi, je voulais faire ça. Et que si en plus d'une pierre deux coups, ça pouvait leur prouver qu'ils s'étaient trompés, j'étais contente. Ça a été pareil en école d'art dramatique. J'ai eu beaucoup de gens qui avaient l'air de me faire une liste non exhaustive des soi-disant qualités qu'on devait avoir pour faire ce métier-là. Et j'étais clairement pas la star parmi les poussières, tu vois. J'étais vraiment pas... Aucun de mes professeurs n'aurait parié 12 euros sur moi. J'en ai aucun qui m'a dit, en me regardant dans les yeux, « Je sais que t'as quelque chose qui dort dans ton cœur. Vas-y, fonce. » Aucun. Tous, ils étaient là en train de dire bravo aux gens où c'était beaucoup plus évident, beaucoup plus visible, beaucoup plus plein de zèle. Et donc, plus j'avais des gens qui me disaient « Ouais, mais tu sais, c'est compliqué aussi. Enfin, je sais pas si t'es sûr, je sais pas si tu peux, je sais pas si tu réussirais. » J'étais là. Ok. Eh bien, écoute, on se rappelle dans 5 ans.
Ok.
Et ça, ça a été un moteur de fou.
Et ça l'est toujours aujourd'hui ?
Ça l'est toujours.
Okay.
Ça l'est toujours, mais plus que jamais. Maintenant, les triggers, c'est pas les mêmes exactement. Il y a toujours un truc sur le fait que je sois une femme et réussir dans les trucs où on me dit que les femmes n'ont pas beaucoup réussi ou c'est difficile pour les femmes. Je suis là, ah ouais, bon, on va bien voir, mon gars. Mais pareil, quand j'étais en cinquième, on avait fait des agrès. Le prof de PS, il avait dit barre asymétrique, barre parallèle. Et là, il avait dit, mais juste pour notre info perso, ah, au fait, les barres parallèles, il n'y a pas d'épreuve aux Jeux Olympiques pour les femmes. Moi, j'avais fait, excusez-moi. Genre, d'où il n'y a pas d'épreuve de barre parallèle pour les femmes. Et il m'avait dit, bah, ça demande beaucoup de force au niveau des bras et les femmes ne sont pas très fortes aux bras. Et j'avais dit, bah, moi, vous allez mettre les barres parallèles, vous allez baisser les yeux. Et j'avais fait barre parallèle. C'était vraiment juste ce truc de... C'était pas juste du challenge, c'était du prouver que c'est basé sur des croyances stupides. Et donc, ça me pousse. Ça veut dire, par contre, qu'une fois que j'ai réussi à arriver là où je voulais arriver, je ne vais pas revoir les gens en leur disant nananère. J'ai réussi, alors tu vas faire quoi ? Et ensuite, je les humilie. Non, c'est juste que pour me mettre le pied à l'étrier et pour me donner le petit, tu sais, le petit boost de démarrage, c'est toujours plus facile quand j'ai identifié les choses pour lesquelles on pense que je ne suis pas capable de le faire.
Ok. Je peux reboucler avec mon histoire ? Parce qu'en fait, j'ai eu ce... Je pense que j'ai eu ce feu là, moi aussi, pendant tout un temps. Et alors notamment parce que j'ai subi du harcèlement scolaire à l'école, etc. Et ça a été longtemps un truc pour moi de ils vont bien voir ce qu'ils vont bien voir, tu vois. Le truc, c'est que je pense que j'ai monté Mademoiselle, j'avais 28 ans. Genre 3-4 ans après la création de Mademoiselle, tu vois, j'avais la sensation que c'était que j'avais réussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et bon, c'était complètement con, hein, mais ce feu-là, il s'est éteint. Et pendant tout un temps, j'ai cherché longtemps un autre feu, enfin tu vois, à le remplacer d'une manière ou d'une autre. Et je pense que même aujourd'hui, en fait, je ne l'ai pas encore tout à fait trouvé, c'est-à-dire que je vais plutôt chercher au fond de moi les ressources plutôt que de me dire « tu vas voir comme il va bien voir sa gueule ». Tu vois, ce truc-là, c'est complètement amoindri d'une manière générale et ce fonctionnement-là est un peu parti. Et toi, tu dis qu'en revanche, t'arrives à trouver des nouveaux trucs.
Ouais, parce que je fais jamais l'unanimité. C'est-à-dire que je considérerais pas que j'ai réussi et donc que je suis arrivée là où je devais arriver tant que je suis pas indiscutablement une experte de mon travail. Et quand je dis une experte de mon travail, ça veut dire que aujourd'hui, j'ai pas encore écrit de long métrage ou réalisé de long métrage ou joué dans un long métrage avec un rôle assez important pour pouvoir avoir cette sensation que je suis indétrônable. Peut-être que j'aurais plus cette volonté de revanche quand je serais indétrônable, mais comme il me manque encore un chemin de malade pour être indétrônable et indiscutable dans mon milieu, je me dis que j'ai encore le temps et que donc j'arrive à trouver partout des petits bâtons dans les roues pour pouvoir les brûler et faire un feu.
Eh ben écoute, t'es un peu comme Jordan, parce que justement, il y a un épisode où il parle de ça et en fait, il était capable d'aller se trouver un challenge dans le match, juste à ce moment-là, parce qu'il y a un moment donné, un mec qui lui a mal parlé et que le lendemain ou 3 jours plus tard ou parfois plusieurs mois plus tard, le mec le retrouvait en disant « Tiens, tu m'as mal parlé, toi, la fois passée. Tu vas voir comment je vais te faire bouffer la poussière, quoi. » Et en fait, il faisait ça. Et c'est assez admiratif.
Mais c'est peut-être parce que ton objectif, il était plus facile que ce que tu croyais.
Peut-être.
Parce que j'ai l'impression que...
C'était pas facile. Hein,
mais... Non, c'était pas facile, mais je veux dire, peut-être qu'il était finalement plus accessible. Ouais. Moi, je sais que je me cale des trucs assez inaccessibles pour jamais être arrivée. J'ai peur d'être arrivée un jour, vraiment. J'ai peur d'être arrivée et de me dire, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et je réfléchis systématiquement le jour où cette carrière dans la création de trucs marche plus pour moi. Il y a plein de métiers que j'ai envie d'essayer, que j'ai envie de faire et dans lesquels je saurais m'épanouir.
Rappeuse,
ouais, c'est ça, ouais. Prends un métier artistique pour remplacer un métier artistique.
Non, mais tu voudrais faire quoi si t'es plus artiste ?
Si demain je suis plus artiste, je pense que je serais très heureuse enseignante. Ouais, je pourrais franchement bosser à Leroy Merlin, au rayon menuiserie, au quincaillerie. Oh, mais quincaillerie de Leroy Merlin, je pense que je serais hyper contente. Non, mais c'est vrai, j'ai plein de fromagères, j'aimerais trop. Et c'est vrai ce que je te dis, c'est genre tous ces métiers-là qui parlent à une partie des choses que j'aime dans la vie. Alors je sais pas combien de temps je le ferai, franchement je serais allée chez Leroy Merlin 2 ans, ensuite fromagère 2 ans, mais j'arrêterai pas de toucher à tout. Mais je réfléchis à ça souvent, mais je me dis aussi, je me suis fixé un objectif assez loin de moi pour me dire, c'est pas demain la veille que j'aurai accès à ce truc là que je serai l'équivalent de Cédric Clapiche dans ma branche.
Quoi?
J'ai une image hyper peut-être lisse de Cédric Clapiche et je me dis dans ma tête, il arrive, il est Cédric Clapiche, il a écrit sur un bout de papier, j'ai une idée pour un film, et comme il est Cédric Clapiche, les gens disent, ok, je le signe, c'est bon, allez, on part en production. Et je me dis, Cédric Clapiche, il est arrivé à ce niveau que j'appelle indétrônable, c'est-à-dire qu'il a révolutionné le cinéma, il a révolutionné la réalisation, il raconte des choses qui réussissent chaque année à parler à un grand nombre de gens, et c'est toujours d'une certaine qualité ce qu'il fait. Mmh. On s'est jamais dit franchement il fait la même chose encore et encore. Mmh. Tu vois, il se renouvelle tout en restant quand même fidèle à lui-même. Aujourd'hui, je pense que n'importe quelle production voit un film de Cédric Clapiche, même je te dis, il a écrit sur une serviette un bout d'idée, n'importe qui le produit. Mmh. Et j'aimerais un jour faire ça. C'est-à-dire qu'on se dise, putain, je veux bosser avec Marion Seclin. Elle a écrit « J'ai eu une trop bonne idée, lol », sur une serviette hygiénique. Et moi, je lui fais confiance et j'amène les cas pour qu'on produise ce truc-là. C'est ça, mon rêve.
Hygiénique, bravo.
Ouais, bah attends.
Je l'ai.
Non, mais tu vois, c'est ce truc-là où je me dis « Je pense pas qu'une prod dise non à Cédric Clapiche aujourd'hui. » Tu penses ?
Non, je pense pas. Enfin, après, je suis pas prod, mais je pense que si Clapiche vient voir... n'importe quelle prod aujourd'hui, tu sais que c'est un film qui va marcher, quoi qu'il arrive.
Oui,
quoi.
Ou en tout cas qui sera de qualité. Oui, et même ça. Si c'est pas genre un énorme hit, tu seras content en tant que producteur d'avoir fait un film de Clapiche. Moi, j'ai cette image de lui où je me dis, j'aimerais bien moi aussi pouvoir pas passer par toutes les courbettes, toutes les galipettes, tous les regardez, voici mon groupe sanguin, je vais vous prouver que ce que je vais faire, ça va être bien, etc. Et surtout, je viens d'Internet, donc c'est encore plus compliqué, j'ai l'impression pour moi de prouver mon...
Pour faire du cinéma, tu veux dire ?
Ouais, pour faire du cinéma. Bah, on a quand même une image... En fait, t'as cette sensation bizarre qu'il y a un monde... Que c'est deux mondes différents et qu'on fait pas la même chose et qu'on fait pas les... Alors que si, on refait tous les mêmes choses que les autres, mais je me sens pas bienvenue, quoi. Personne n'est là, bras ouverts, à dire « On attendait la relève, bonjour Marion !» Et un jour, je serai Clapiche.
Ok.
C'est un peu mon but.
C'est noté.
Voilà.
C'est quoi ton autre moteur ?
Et mon autre moteur, c'est la peur que quelqu'un fasse mes idées avant moi. Parce que j'ai compris un truc en travaillant dans ce milieu de création de choses, c'est que les idées, c'est dans l'air du temps aussi. Et qu'on a beau être le plus intelligent, le plus subversif, le plus rigolo, le plus tout ça, ben en fait, tout le monde a les mêmes idées. Et je me souviens, au début, sur YouTube, je voyais souvent mes potes qui avaient des chaînes essuyer des mini-scandales de plagiat. Donc on leur disait, ouais, t'as plagié cette vidéo vachement moins connue qui a été faite il y a X années, et globalement, les idées étaient les mêmes. Parce qu'en fait, les idées sont les mêmes. Parce que personne n'invente l'eau tiède. Parce que c'est pas possible. Et j'ai toujours eu cette peur de me dire, je sais que les idées sont dans l'air du temps et que quelqu'un pourra potentiellement avoir une idée que j'ai eue à un moment où ça vient répondre à un besoin, à une envie créative. Sauf qu'il suffit que cette personne soit mieux placée pour pouvoir la produire pour que, bah, en fait, je sois juste genre la reine de mon tiroir à idées. Et que je dise, bah, j'avais l'idée avant. Et ça me fait flipper.
Et donc, ça t'incite à...
Ça m'incite à faire.
À faire.
À faire vite. Et quand je dis faire vite, je ne veux pas dire faire mal, je veux juste dire faire vite. C'est-à-dire, plus utiliser l'excuse de « ça ne sera pas bien produit, ce ne sera pas financé, ce ne sera pas diffusé sur une vraie chaîne reconnue mondialement pour le faire. » C'est-à-dire me dire « je vais me donner les moyens de le faire pour que ça existe. » parce qu'il faut que ça existe. Donc je veux faire exister les choses le plus vite possible pour pouvoir me dire à moi, ok, c'est bon, j'ai lancé le truc. Il est plus dans mon tiroir. Parce que c'est horrible, en fait. J'ai pas envie de mourir et qu'on retrouve mon tiroir à idées et qu'on se dise, putain, elle avait l'idée de Star Wars. Oh, je regarde la date. Mais avant, mais bien sûr, avant que Star Wars sorte. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait horrible. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui me fait paniquer.
Pourquoi?
Bah, je sais pas. Je me dis toujours, c'est le métier que je veux faire. C'est pas comme si j'étais ébéniste et à côté j'avais des petites idées, j'avais l'idée de Star Wars. C'est que je veux faire ce métier, donc j'ai des idées qui vont avec cette industrie et qui vont avec ce que le public semble vouloir et à la fois ce qu'on lui montre pas souvent. Et je réussirais à me faire voler mes idées sans que ce soit du vrai vol, mais juste parce que j'ai pas été assez rapide. J'aimerais pas en fait que ce soit un problème de timing. J'ai toujours haï dans les relations amoureuses quand c'est un mauvais timing qui est pointé du doigt et je détesterais que ce soit pareil professionnellement et qu'on me dise franchement c'est dommage, oui t'avais l'idée de Star Wars mais c'était une époque où les gens étaient pas prêts. Je haïrais ça, même si j'entends le propos. Du coup ce qui m'ennuie ce serait de me dire mais j'ai eu l'idée, j'ai eu cette idée là, j'ai voulu faire cette chose là, j'ai voulu la faire et si on l'avait fait en premier, on l'aurait fait en premier. Il n'y a pas d'excuse pour moi de timing. Il y a juste des personnes qui ont du nez et des personnes qui n'ont pas de nez.
Mais tu n'as pas la sensation dans ta situation que tu es hyper avant-gardiste très souvent et que tu as défendu des idées qui étaient compliquées à défendre il y a quelques années et qui sont aujourd'hui plus simples à défendre.
Et donc, c'est, mon... hein? C'est ma malédiction, tu veux dire?
Ben non, mais je sais pas. Je me dis aussi que c'est un truc qui doit être... C'est peut-être aussi pour ça que tu parlais de Barbie féministe, etc. C'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus simple, entre guillemets, d'être féministe ou de se proclamer féministe qu'il y a 4 ans, quand t'en prends plein la gueule. CF, l'interview numéro 1 qu'on a fait ensemble, où on en reparle plus longuement. Mais... T'as pas cette sensation-là?
Si, un peu, mais j'ai l'espoir que l'avenir de cette industrie, ce soit des gens à qui on fait confiance, aussi avant-gardiste soit-il, parce que ce qui compte, c'est qu'on soit les premiers ou qu'on dise assez fort quelque chose qui est rarement dit, plutôt que de voir si ça correspond ou pas à une tendance. Parce que oui, aujourd'hui, c'est plus facile d'être féministe, mais parce qu'en fait, une personne sur deux est féministe, limite. Je trouve ça horrible qu'on décide qu'aujourd'hui l'égalité, c'est un truc ok parce que plus de gens le sont, alors que l'égalité, ça valait ce que ça valait il y a 5 ans et c'était choquant. Et je me dis juste, tout ce que j'ai à faire, c'est une forme de vérité que moi j'ai et que je partage avec plein de gens. Mais des gens qu'on veut pas mettre en avant, parce que sinon ça fait longtemps qu'on les aurait mis en avant. Donc là où je trouve ça dommage de toujours tout mettre sur le dos de la tendance et du fait que oui, c'est avant-gardiste juste parce qu'on a l'air d'être moins à le dire, mais en fait on est beaucoup à se taire. C'est juste de faire ce truc-là, de dire j'aimerais rencontrer quelqu'un qui décide de mettre en lumière des choses qui existent, qui sont la vérité de plein d'individus et qui ne sont pas encore ni à la mode, ni tendance, ni particulièrement dans l'air du temps, juste parce que c'est une vérité qui existe. Parce que les demoiselles qui sont féministes aujourd'hui et qui ne l'étaient pas il y a 5 ans parce qu'elles étaient trop jeunes, etc., si elles en avaient entendu parler il y a 5 ans, probablement qu'elles auraient été féministes il y a 5 ans. Donc on ne se réveille pas un matin féministe parce que c'est la mode.
Ouais, je ne pense pas.
Tu vois, et c'est pareil pour tout ce que j'ai à raconter et tout ce que j'ai à dire. J'ai l'impression que si ça existait maintenant, dans 5 ans ou il y a 5 ans, l'impact serait le même. C'est juste, le plus tôt on donne la voix aux gens qui ont rarement la parole, bah le plus tôt on se rend compte que le public, c'est un truc divers. C'est un truc hyper riche et c'est composé de plein de personnes. Les gens se réveillent pas à 25 ans hyper intéressés par l'égalité, tu vois. C'est juste, faut aller les chercher. Le risque, il est que, comme on sait pas encore si ça va les intéresser, on y va doucement. Donc on attend d'abord qu'il y ait un petit MeToo, on est là, ok, c'est bon, il y a eu MeToo, ça a l'air de passer ok pour le féminisme, on va pouvoir le dire plus. Mais tu vois, c'est ça qui est compliqué. Moi, j'aimerais pouvoir bosser avec des gens qui sont aussi avant-gardistes que je peux l'être et qui se disent, le public, il est là, il existe, faut juste aller le trouver. Parce qu'il va pas juste apparaître, le public, quand ce sera à la mode. Et c'est ça aussi qui va vachement dénaturer, je pense, tous les types d'œuvres qui sortent parce qu'ils sont à la mode au moment où ils sont à la mode. C'est que, bah, il est où? Enfin, elle est où l'authenticité du projet? Elle est où l'espèce de jaillissement de tripes qui fait que cette personne a eu besoin de dire ça à ce moment-là? Et je comprends, on est dans une industrie, il faut faire de l'argent, il y a un moment où c'est vrai, mais le problème, c'est que ça dénature énormément tous les projets d'imaginer qu'on doit attendre qu'il soit OK pour en parler.
Tu sais, ça me fait penser à... Je sais pas si tu connais Sophie Audouin Mamie Cognon, qui est l'auteur de Tara Duncan, l'autrice de Tara Duncan. Tara Duncan qui est une... Alors tu vois, je vais te dire un Harry Potter-like.
Ok.
Mais en fait, c'est pas du tout un Harry Potter-like, c'est-à-dire que c'était Harry Potter avant l'heure. Elle l'a écrit environ 10 piges avant Harry Potter. Si je me trompe pas, hein, vraiment, désolé si c'est pas le cas, mais en fait, plusieurs années avant Harry Potter, elle l'avait envoyé à des... Donc c'était un gros livre pour enfants, si tu veux.
Ouais.
Elle l'avait envoyé à des éditeurs qui lui avaient dit « Désolé, madame, mais en fait, les enfants ne lisent pas des gros livres. Ça n'existe pas. Ils ne savent pas faire. » Et puis, un jour, Harry Potter est sorti, Harry Potter avec le succès qu'on connaît. Et donc après, elle a fini par aller voir d'autres éditeurs, à nouveau des éditeurs, qui lui ont dit « Ok, vas-y, banco, on signe. » Et donc, elle est, de ce fait-là, elle a toujours été là. Et je le sais parce qu'elle m'a raconté le truc, elle m'a montré la lettre qu'elle avait envoyée quelques années avant. Enfin, donc, tout ça est assez authentique. Et en fait, aujourd'hui, elle est un peu la Harry Potter-like, tu vois, c'est-à-dire, et plutôt que d'être la première. T'as pas peur de te retrouver un jour dans cette situation-là, toi ? Avoir écrit des trucs ?
Si. Si, j'ai peur de ouf. C'est pour ça que je veux faire sortir les choses. Mmh. J'ai hyper peur. Enfin, j'ai pas peur pour moi, personnellement. J'ai juste peur pour mon courage, tu vois. J'ai l'impression que je vais perdre mon courage à la longue. Parce que là, j'ai encore le courage de me battre contre tout ce qui va arriver sur mon chemin. Mais je me dis, au bout de la combientième idée dont on m'a dit qu'elle était mauvaise et qui a été faite quelques années après, je vais avoir envie de lâcher. Genre, faut voir à l'usure combien de temps je vais tenir. Là, tout de suite, j'ai pas peur. Et je me dis à chaque fois, on a tous eu l'idée de bloquer avant que bloquer soit écrit. On l'a tous eu, cette idée-là. Et bon, ça a été fait. Et on se dit, merde, si moi je l'avais fait. Et du coup, pour plus être dans la position de me dire, merde, si moi je l'avais fait, j'essaye de faire sortir les choses.
Okay.
De les faire. Mal de les faire avec les moyens du bord, mais de les faire pour qu'elles existent. Non pas parce que comme ça, on me donnera le crédit des choses, mais juste qu'on pourra pas dire que ça n'existait pas. On pourra pas dire que j'ai pas essayé. Et surtout, ce que j'ai pas envie, c'est de cette sensation que on me dise, bah, fallait le dire, alors que j'ai pas arrêté de le répéter. Tu vois ce que je veux dire ? Mmh. Ça m'est déjà arrivé de bosser avec des producteurs à qui je dis, ouais, mais en fait, j'ai cette idée, et qui disent, ah bah, Marion, fallait le dire avant. Et je suis là, ouais, mais moi, ça fait 5 ans que je le répète. Et c'est juste ça qui me frustrerait. C'est genre, on m'écoute pas particulièrement, et ensuite, on vient me reprocher de pas avoir parlé assez fort. C'est un peu redondant. Ça me fait pas flipper en soi, parce que je sais que je ferai toujours des choses qui me rendent heureuse et qui sont ma réalité. Mais puis ce qui est important à la fin, c'est que les choses, elles existent, tu vois.
Comment tu fais si jamais t'as des projets auxquels des producteurs croient pas, qui sont pas financés, et que tu te dis, tiens, il faut que je les fasse quand même?
Bah, je vais chercher de l'argent. Je vais chercher des marques qui sont d'accord pour être mécènes d'un projet. Je vais chercher des personnes qui sont d'accord pour travailler gratuitement et pour, au lieu de donner de l'argent, donnent de leur talent. Je vais chercher des équipes d'humains qui défendent les mêmes choses que moi. C'est des choses qui sont dans les tuyaux encore. Okay. Et quand j'ai dans les tuyaux, je veux dire, c'est des choses qui sont en train d'être faites. Mais j'ai pas peur de devoir aller relever mes manches pour aller chercher de l'argent là où il y en a et dire je veux que ça existe, il faut que ça existe, c'est important. En fait, je vois à quel point aujourd'hui, en tant que femme, on a besoin de représentation. Au point que n'importe quelle nana qui va sortir une petite vidéo dans laquelle on n'a pas l'habitude de voir un rôle féminin et qu'on voit un rôle féminin, on est toutes là en train de chialer et de dire « Ah, c'est merveilleux, mais qu'est-ce que c'est ?» C'est qu'on n'a pas l'habitude. Je sais qu'aujourd'hui, les idées que j'ai dans les tuyaux, j'ai la certitude dans le fond de mon cœur, et je pense pas que ce soit par orgueil, que ça va faire du bien à au moins 13 personnes quand ça sortira. Et quand je dis au moins 13 personnes, je veux dire, en vrai, j'imagine beaucoup plus. J'imagine que tout un pan de la population qui n'a jamais été montré dans une fiction et à qui on n'a jamais donné la parole sera soulagé de voir qu'il existe des personnes qui savent s'inspirer de la réalité et pas l'inverse. Et pas s'inspirer de la fiction pour continuer à faire des fictions qui ressemblent aux mêmes fictions qui sont déjà sorties. Et je sais que ça peut fonctionner comme ça. Et je me dis, je ferai exister ces choses en trouvant des gens qui croient comme moi, qui ont une économie comme la mienne. C'est-à-dire, tu fais des posts sur Instagram, tu gagnes de l'argent en faisant de la publicité, comme font les chaînes de télé, comme font les diffuseurs de cinéma, comme font tout le monde. Et tu donnes du temps et de l'énergie et du savoir-faire à des choses qui vont peut-être pas être très rémunératrices, mais qui au moins auront le mérite d'exister. Et c'est comme ça que je veux bosser à partir de toute ma vie. Mais j'ai pas peur de devoir aller chercher de l'argent. Et en tout cas, j'ai pas peur aussi de plus me mettre dans la position de demandeuse de travail. C'est-à-dire que quand tu travailles avec un producteur pour une fiction que tu dois écrire, on a l'impression que c'est toi en bas de l'échelle. Alors que c'est toi la porteuse d'idées. C'est toi la personne qui va donner ta patte, ton sens et ton fond au projet. Mais bizarrement, on te considère toujours comme la dernière roue du carrosse. Moi, je pense que cette hiérarchie-là, il faut l'annuler. En fait, c'est les idées qui changent le monde, pas les diffuseurs. Et les diffuseurs, ils n'ont pas tous le nez. De la même manière que pour le livre dont tu as parlé, a priori, ils avaient le nez très creux. Le nez creux, ça veut dire qu'ils avaient du...
Non, c'est l'inverse.
Ok, mais ils avaient le nez très plein.
Ils n'avaient pas le nez.
Ils avaient le nez extrêmement plein. Ah, pas, ils avaient un mauvais nez. Et le problème, c'est ça, c'est que quand tu confies à des individus, des personnes comme vous et moi, avec des sensibilités différentes comme vous et moi, une éducation différente, un background différent, le soin de choisir ce qui va marcher ou pas pour tous les humains du monde, bah, tu fais déjà une belle erreur. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne notre monde. C'est toi qui viens avec ta sensibilité, ton humanité, devant un autre humain qui a son humanité, sa sensibilité, et tu lui dis « Oh toi, grand maître, juge mon projet et décide si oui ou non il sera diffusé. » Et il y a des personnes qui sont très très douées dans leur travail, qui savent avoir le nez justement et se dire « Tiens, ça, ça pourrait fonctionner ou pas. » Mais tu as aussi des personnes qui, malheureusement, sont juste des gens avec une opinion. Et juste des gens avec une opinion, ça fait pas des bons diffuseurs ou des bons producteurs.
Et donc c'est quoi la solution? C'est de faire faiseuse, c'est ça?
C'est de faire faiseuse, ouais, c'est de se...
Alors faiseuse, pour expliquer, mais c'est une asso que vous avez lancée avec...
Ouais, avec Nathalie.
Avec Nathalie Séjean.
Nathalie Séjean, avec qui j'écris et avec qui, depuis bientôt 2 ans, avec qui j'ai une entente dans le travail formidable, avec qui on se tire vers le haut et avec qui on a l'exigence de jamais se laisser le cul sur nos lauriers en train de se dire « Eh, super !» On a lancé Faiseuse, qui est donc une association dans laquelle on fait du crowdsourcing. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de demander de l'argent aux gens, mais de demander aux gens de nous prêter leur talent pour pouvoir produire des choses, des histoires. Donc on a mis histoire en général parce que on ne peut pas faire des films à chaque fois, on ne peut pas faire des courts-métrages à chaque fois, mais on peut faire des podcasts, on peut faire des...
Mais vous avez fait Consciente ?
On a fait Conscience, ouais.
Conscience, pardon.
Non, je t'en prie. Conscience, c'était le... Bah voilà, on avait envie d'écrire une fiction.
C'était trop bien.
C'est vrai ?
Ouais.
Ça t'a plu ?
J'ai kiffé.
Conscience, c'était une fiction qu'on a écrite en octobre 2019. On avait envie d'écrire une fiction et on s'est dit comment on fait une fiction là, maintenant, avec approximativement 12 euros de budget. Et Nathalie a dit, bah, on fait une fiction audio et on fait comme si nos deux personnages s'envoyaient des notes vocales sur WhatsApp. Et c'est ça, en fait, c'est sans cesse renouveler et challenger la manière de raconter les histoires pour que les choses existent. Si demain, tu as une histoire similaire qui sort n'importe où, nous, Conscience, on l'a sorti. Il est disponible sur les plateformes de podcast. Donc, on n'aura pas cette espèce de frustration que c'est pas nous. Ouais, la primeur et surtout, c'est une sorte de preuve limite de passeport pour dire « Sachez qu'on a les idées 5 ans avant, donc n'hésitez pas pour la prochaine fois. » Parce que ça s'arrête pas. Enfin, j'ai l'impression que quand tu es en avance un peu tout le temps. Comme quand tu es en retard, tu vois.
Ouais, c'est pas sûr.
C'est pas sûr, mais pour le moment, c'est le cas.
C'est dur de rester en avance tout le temps.
C'est dur de rester en avance tout le temps, mais dans la mesure où on est assez mécontente de l'industrie dans laquelle on travaille, on sait qu'on est déjà un peu plus en avance. Mmh. Dans la mesure où on veut donner la parole aux gens à qui on donne pas la parole et qui pourtant existent, on sait qu'on sera toujours un peu en avance. Mais c'est un peu la théorie de quand t'es en retard à ton premier rendez-vous du matin, tu seras en retard à celui d'après, puis à celui d'après, puis à celui d'après. Et pour l'avance, c'est un peu pareil.
Je suis pas si sûr. Je pense que tu peux être en avance à un moment donné, et puis après finir par te reposer sur tes lauriers, parce qu'en fait, t'as tellement été en avance pendant un long moment que t'étais capable de capter l'air du temps. Enfin, tu sais, comme tu dis, les idées qui sont dans le temps, etc. Il y a peut-être un moment donné où tu finis par te déconnecter pour plein de raisons possibles, et que tu finis par perdre cette avance-là.
Peut-être, mais il faudrait que le monde aille beaucoup plus vite que nous. Non, mais c'est vrai, moi j'aimerais trop un jour, hein, vraiment dormir pendant les 13 heures d'affilée et me réveiller et qu'on me dise, mais Marion, tes idées, c'est tellement 2020. Et que je sois là, ah pardon. Enfin, j'aimerais en fait que le monde évolue, puisque c'est vraiment mon but premier dans la manière que j'ai de créer. Mmh. Et j'aimerais qu'un jour le monde me rattrape et que je sois en retard à cause de ça. Mais dans la mesure où je suis pas encore fatiguée de fabriquer des choses et que je veux toujours changer le monde par ces fictions, je me dis que je serai pas en retard demain. Mais oui, c'est bizarre parce que maintenant je réfléchis. C'est pas la primeur juste pour dire on était prêts à le faire. C'était juste pour dire.
C'est sorti.
Ça existe.
Oui.
Ça existe et c'est venu répondre à une problématique qu'une personne a rencontrée à un instant T. Et encore une fois, s'ils sont entre 5 et 10, c'est déjà génial.
Ouais, je comprends. Il nous reste un peu de temps.
Oui.
Il y a une question que je t'ai pas posée, que t'aurais bien aimé que je te pose.
Non, je crois que tu me poses toutes les questions. Je crois que tu m'as posé toutes les questions du monde.
J'ai pas posé toutes les questions.
Non, mais je veux dire, dans la vie, et là, pendant que le micro est ouvert, je sais pas. Non, mais oui, je... En tout cas, je suis optimiste, si c'est ça ta question.
Sur quoi ?
Sur tout. Enfin, j'ai pas peur de devenir l'auteur de Tara Duncan. C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Okay.
Ouais.
J'ai pas peur parce que...
Elle vit bien, elle, hein, tu sais. Elle est très heureuse, hein, tu vois. C'est juste, elle a ce truc de... Putain, c'est fou, j'avais cette idée-là. Et en fait, ce truc n'a pas marché. Mais au fait, elle se dit pas... Elle vit pas dans... Enfin, je pense, hein. J'aimerais bien la voir dans mon podcast ultérieurement, si tu veux. Sophie Audouin, Miconio, qui est vraiment une femme géniale. Mais je pense pas qu'elle vive dans ce truc de... Et je lui poserai peut-être la question de putain... C'était moi la Prums. En fait, elle se dit, si Harry Potter n'était pas sorti et n'avait pas fait le toncard qu'il a fait, j'aurais jamais pu sortir mon livre. Et elle en a vendu des milliers et des millions, si tu veux, des bouquins traduits dans plusieurs pays dans le monde, dans plusieurs langues, etc., etc. Donc en fait, elle s'y retrouve.
Oui.
Mais tu vois, elle n'a pas ce truc. Je pense que... J'aimerais vraiment, je lui poserai la question, mais il y a vraiment ce truc de... Peut-être que si Harry Potter n'avait pas existé, son projet n'aurait jamais pu exister non plus, quoi.
Mais ça m'est arrivé de ressentir un peu d'amertume vis-à-vis de vidéos que j'ai pu sortir sur YouTube, qui ont été récupérées quelques années après par des nanas plus connues que moi, et qui du coup ont récupéré toute la monnaie de ma pièce à moi, tu sais. Notamment ma vidéo sur le corps, qui a été... clairement, je savais en la sortant que j'inventais pas la boîte aux lettres, que j'étais vraiment en train de juste... faire un truc auquel potentiellement plein de gens avaient pensé. Mais je sais que quelques années après, il y a énormément de youtubeuses et d'influenceuses qui ont repris exactement les mêmes choses en essayant de mettre les mêmes phrases, etc. Et sur le coup, ça m'a mise un peu en colère parce que j'ai pas eu de crédit. Et quand je dis j'ai pas eu de crédit, je parle pas du crédit public, je parle du crédit de la personne à la personne qui dit tu m'as inspiré ce truc-là. Et c'est un truc du coup sur lequel moi je suis très très accrochée, c'est systématiquement aller créditer les personnes qui m'ont donné les idées. Et pas les créditer publiquement pour leur dire bravo, juste parce que je sais qu'à titre personnel et individuel, c'est important de se dire « t'as fait naître en moi ce truc-là, du coup je l'ai fait ». Et moi c'est un truc que j'ai pas eu, et c'est souvent un truc qui m'a manqué dans ma vie, c'est cette micro-reconnaissance juste personnelle.
On parlait du vilain petit canard dans la première interview.
Ouais, c'est possible, ouais. Non mais vraiment.
Ok.
Parce que je sais qu'il ne me viendrait pas à l'idée d'invisibiliser quelqu'un de mon parcours, d'invisibiliser quelqu'un de mes envies, et de complètement dire « Ah bah non, ouais, bien sûr, enfin, moi j'ai eu l'idée toute seule, ouais, bah, je me suis réveillée un matin, je me suis rendu compte que... » tu vois. Et ça m'a toujours vachement frustrée de dire « Qu'est-ce que ça te coûte ?» Genre, on sait que les idées sont dans l'air du temps, personne n'a des idées. Pendant le confinement, j'ai fait parler mes émotions pendant mon insomnie.
C'était super.
Ok, Vice-Versa existe. D'accord ? J'ai pas inventé l'eau tiède et j'ai même pas dit tiens, je vais copier Vice-Versa. Je me suis juste dit putain, c'est drôle parce que là, si je pouvais parler avec mon insomnie, je lui dirais de bien aller se faire foutre. Et je me suis dit oh.
D'ailleurs,
bah,
c'est pas que des émotions, c'est juste.
Non, c'est pas que des émotions.
C'est ton insomnie qui parle.
Oui, c'est ça, c'est mon insomnie qui gère gère toutes mes angoisses, qui gère mon estomac, qui gère les différents trucs qui se passent dans la vie. Mais j'ai vraiment rien fait de super nouveau. C'est juste qu'aujourd'hui, je sais que si quelqu'un le refait, quelqu'un qui me connaît et quelqu'un qui me suit, j'aurais un petit peu peut-être les boules de dire bah ok, j'ai pas inventé le truc, mais ce serait chouette de reconnaître que c'est ça qui t'a donné l'idée. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, je trouve qu'on a toujours tendance à se croire supérieur et à penser qu'on a des trop bonnes idées. Moi, j'ai écouté Anne Sylvestre. T'as écouté Anne Sylvestre?
Tu veux dire...
la chanteuse.
Oui, je l'ai, mais d'une manière générale, non.
Eh ben, j'ai réécouté Anne Sylvestre il n'y a pas longtemps et j'ai découvert qu'elle avait fait un nombre de chansons incalculables qui étaient militante, féministe, profonde, poétique, intelligente, que moi j'avais l'impression d'avoir inventé le féminisme et qu'elle, elle arrive et elle me dit bah, « En fait, moi, 60 ans avant toi, j'avais inventé le féminisme et moi, je suis là. Oh !» Tout est une question d'accessibilité. Si, effectivement, Anne Sylvestre, c'est une chanteuse qui sera jamais autant mise en avant que Jacques Brel, parce que c'est... Bon, 60 ans de carrière, c'est pas énorme, quoi. On va pas déconner. Et du coup, ça me frustre toujours de me dire, ce qui compte, c'est effectivement l'endroit où t'es au moment où tu dis la chose, mais aussi que tu l'aies déjà dit. Parce que quand je vois Anne Sylvestre, je me dis genre, ça existe déjà. C'était quelque part, c'était par là. Maintenant, à moi de le rendre accessible.
J'ai envie d'arrêter là-dessus.
Bah allez, franchement. On peut manger maintenant.
Je vais te faire à manger.
C'est gentil.
Bon, bah, merci Marion.
Bah, merci Fabien.
Bah, je sais pas, c'était bizarre comme truc, mais j'espère que ça vous plaira. Voilà.
Bah, merci. Ouais, bah, j'espère. Pourquoi attends? Parce que les gens, ça pourrait ne pas leur plaire. Ils pourraient dire, ouais, rembourser nos. Rembourser.
Le
podcast gratuit. Bah, si vous voulez un remboursement, n'hésitez pas à nous écrire sur papier libre. Hein.
Voilà. Et puis, mettez une bonne note à ce podcast aussi. Hein,
oui. S'il vous plaît.
Merci Marion.
Merci à toi.
Enfin, je te dis merci, mais c'est pas comme si on n'allait pas passer le reste de la soirée ensemble.
On va passer le reste de la soirée ensemble et on va bien rire.
Oui, mais vous entendrez pas. Parce que c'est que pour nous. Allez, salut.
Salut.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.